Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 9e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi la communication non violente est un vecteur de bonheur? J'ai rencontré la communication non violente pour la première fois lors de ma formation de coach professionnel il y a 10 ans. Auparavant, j'en avais jamais entendu parler, ni même de son concepteur Marshall Rosenberg. Il faut dire que je venais du monde industriel, ayant passé de nombreuses années à enseigner les systèmes d'automatisme à des techniciens et des ingénieurs principalement, puis à développer un centre de formation technique en France, avant de manager cette activité pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. À l'époque, dans l'univers de la production industrielle, les approches psychologiques de la relation à l'autre étaient rarement transmises et partagées avec les collaborateurs, et cela n'a pas beaucoup changé. J'avais intégré, pour mon métier de formateur, des notions fondamentales de PNL, programmation neurolinguistique, et d'analyse transactionnelle, mais je découvrais en juin 2009 une nouvelle dimension dans la compréhension de la puissance du langage, dans la qualité des relations, la communication non violente. Immédiatement, dès l'intégration des premiers principes de communication non violente, j'ai eu l'intuition que je touchais là quelque chose qui allait transformer ma vie. Dans la foulée, j'ai senti l'envie de partager ma découverte avec le plus grand nombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis. Convaincu de son efficacité pour l'utiliser dans toutes les dimensions de ma vie, professionnelle, familiale, amicale, associative, j'initie à la communication non violente de nombreuses personnes, adultes et enfants, à travers des conférences, des séminaires, des formations, des coachings bien entendu, et des ateliers du bonheur. J'anime aussi, à Sartrouville, chaque dernier mercredi du mois, un groupe de pratique de CNV, communication non violente, de 20h à 22h. Le créateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg, a grandi à Détroit, dans le Michigan. Au moment où sa famille s'établissait dans cette ville, des tensions raciales dégénèrent en émeutes qui firent plus d'une quarantaine de victimes. Quelques semaines plus tard, lors de la rentrée scolaire, il découvrit à son insu qu'un patronyme pouvait être aussi préjudiciable qu'une couleur de peau, lorsque certains de ses camarades prirent l'habitude de l'attendre à la sortie des cours pour le tabasser à cause de ses origines. C'est à partir de ces événements que la quête de Marshall Rosenberg a débuté. Il n'eut de cesse de découvrir un mode d'expression qui consisterait en une alternative à la nécessité de recourir à la violence. Il reçut en 1961 le titre de docteur en psychologie clinique de l'Université du Wisconsin et se vit accorder, 5 ans plus tard, la plus haute distinction du jury américain de psychologie professionnelle. Après avoir été collaborateur de Carl Rogers, il mit au point, au début des années 80, le processus de la communication non violente. Il fonda ensuite le Centre pour la communication non violente, organisation à but non lucratif destinée à promouvoir cet art du dialogue, invitant à une bienveillance mutuelle. Avec ses confrères, Marshall Rosenberg a fait connaître le processus de la CNV à des dizaines de milliers de personnes dans une quarantaine de pays, y compris des pays en guerre, et sur les 5 continents. Ses formatrices et formateurs s'adressent à des publics extrêmement variés, pédagogues, élèves et étudiants, parents, dirigeants et personnels d'entreprise, professionnels de la santé physique et mentale, avocats, juges, prisonniers, agents de police, religieux, etc. Il a voyagé dans le monde entier pour intervenir en tant que médiateur dans les conflits et promouvoir la paix. Marshall Rosenberg nous a offert une méthodologie simple pour apprendre à communiquer sans violence et non pas sans colère. Le concept de la CNV repose sur 4 fondamentaux. Observation, sentiment, besoin, demande. Ces 4 piliers constituent le fondement de la CNV et sont directement reliés à l'empathie, à l'écoute profonde et à l'auto-empathie. Au-delà de la méthodologie, Marshall Rosenberg propose une attitude, un chemin de vie, qui bouleverse les paradigmes et permet un nouveau langage avec lequel chacun peut se donner le maximum de chances d'obtenir ce qu'il souhaite. J'avoue que l'intitulé de l'approche ne me plaît pas beaucoup. Quel dommage que le terme « violence » apparaisse dedans. Bien souvent, les personnes à qui j'en parle me disent « mais je n'en ai pas besoin, je ne suis pas violent ». Aussi, je suis plus sensible à d'autres nominations comme « communication responsable » ou encore « communication empathique » ou « bienveillante ». Mais si Rosenberg a choisi le nom « communication non violente », c'est en référence à Gandhi et à Martin Luther King, tous deux prenant la non-violence pour obtenir plus que par la violence. J'ai une grande admiration pour Marshall Rosenberg, pour l'homme et pour le professionnel. Son génie m'inspire. Pour nous aider à développer des relations responsables, il a établi des principes de base d'une grande simplicité. Et il a créé une méthode en 4 étapes, applicable par tous. « Changez le langage, disait-il, et le conflit sera sur le chemin de sa résolution. » L'autre trait de génie de Marshall Rosenberg est d'avoir imaginé l'utilisation d'animaux symboliques pour nous faire comprendre nos comportements. Plus précisément, il a créé 2 personnages, représentés en séminaire ou en conférence par des marionnettes, le chacal et la girafe. Le chacal hurle pour communiquer. C'est un langage fait de critiques et d'interprétations qui amplifie le conflit et parfois même le crée. La girafe parle autrement. Elle observe sans juger. Elle exprime des sentiments sans en rendre l'autre responsable. C'est le langage du cœur. Et oui, la girafe est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur. Lorsque la situation conflictuelle passe au niveau du langage, il s'agit alors de transformer la forme et la tournure des phrases pour passer d'un langage chacal à un langage girafe. C'est donc un outil de résolution du conflit sans intervention d'une tierce personne. C'est un outil d'une grande simplicité et d'une grande efficacité. Revenons aux principes fondamentaux. Pour que le processus de communication non violente, appelé CNV, soit efficace, il convient de l'inscrire en respectant 3 principes. Le premier principe consiste à clarifier ce qui se passe en soi. Il s'agit là de se donner de l'auto-empathie, être au clair avec ses propres émotions, les accueillir et les comprendre, avant de se décider à entrer en relation avec l'autre, surtout s'il y a risque de conflit. Prenons un exemple. Vous décidez d'avoir une conversation avec Dany, votre collègue de bureau, ce matin à 8h30. Car la veille, il est parti sans ranger l'espace de travail, ce qui vous a obligé à rester plus longtemps sur place pour laisser le lieu en ordre pour la visite des clients étrangers prévue à 9h. Cependant, vous arrivez à 8h45. Agacé par l'attitude de votre enfant, qui marchait au ralenti pour s'habiller alors que vous étiez déjà en retard, et énervé par les embouteillages provoqués par un accident sur votre trajet, êtes-vous vraiment dans l'état d'esprit le plus pertinent pour avoir cette conversation avec Dany? En accueillant votre colère, vous pouvez décider d'avoir un échange avec votre collègue plus tard, quand la tension sera retombée, afin qu'il ne subisse pas de votre part une agressivité qui ne lui est pas destinée. Ou bien, vous pouvez décider d'avoir cette conversation avec lui maintenant, avant l'arrivée des clients, mais en partageant avec lui les raisons de votre état d'agacement, sans lien avec le sujet à aborder. Clarifier ce qui se passe en vous, auto-empathie, et le partager avec votre interlocuteur afin de lui permettre de vous donner de l'empathie va favoriser un échange constructif entre vous. En exercice, j'appelle cela la météo interne. Reconnaître sa propre météo interne permet de se préparer à la prochaine conversation, de s'apaiser ou de partager son émotion. Pour appliquer le deuxième principe, il convient de s'exprimer de manière à favoriser le dialogue. Or, vous avez en effet de nombreuses façons d'aborder une conversation potentiellement ou ouvertement conflictuelle. Vous pouvez crier, insulter, menacer, jeter de l'huile sur le feu, ressortir les conflits du passé, lancer des piques, rouvrir les blessures anciennes non complètement cicatrisées, les vieux dossiers toujours pas prescrits. Cela ne va pas vraiment favoriser le dialogue, vous pouvez bien vous en douter. En revanche, vous avez la possibilité de parler calmement, avec la voix posée, utilisant des mots choisis plutôt neutres afin de ne pas déclencher de contre-attaque de la part de votre interlocuteur. C'est cela qui aidera à faire émerger une conversation productive. Quant au troisième principe, il nous porte à écouter l'autre de manière à favoriser le dialogue et quelle que soit la manière de s'exprimer de l'autre. J'aime rappeler ce proverbe turc qui nous enseigne que si nous avons deux oreilles mais une seule bouche, c'est parce que nous devrions passer deux fois plus de temps à écouter qu'à parler. Si nous ne nous écoutons pas, cela produit deux monologues, là où nous désirons un dialogue. Écoutez l'autre de façon attentive, réelle, en accueillant les mots et la manière de les prononcer, en observant le langage du corps et son adéquation avec le discours, en essayant de deviner l'intention positive qui peut se cacher derrière des mots maladroits ou agressifs. C'est de l'écoute empathique. Écoutez. Écoutez vraiment. En prenant en compte l'univers et la logique personnelle de votre interlocuteur. Parce que nous grandissons dans des milieux différents, parce que nos codes conversationnels diffèrent pour des raisons culturelles et sociales, nous parlons tous différemment. Et nous ne pouvons pas imposer aux autres notre façon de parler. Écoutons l'autre, quelle que soit sa propre manière de s'exprimer. Voilà une écoute favorisant le dialogue. Enfin, pour que le processus favorise réellement la coopération et le dialogue, cela suppose de le mettre en place en respectant deux cadres. Le premier cadre consiste à porter une grande attention au moment présent. Parce qu'un dialogue constructif ne peut se tenir que dans l'instant présent. Comment voulez-vous vous entendre avec votre interlocuteur si vous êtes dans le présent et qu'il est resté dans le passé ? Ruminant sans cesse l'altercation que vous avez eue avec lui il y a de ça de longs mois. C'est impossible. Vous allez devoir le ramener d'abord dans le présent avant de continuer la conversation. Le second cadre nous demande de partager notre intention claire de favoriser le dialogue et la coopération. En communication non violente, il est important de clarifier ses intentions, d'indiquer clairement à son interlocuteur nos propres objectifs. Ce que nous attendons de ces échanges est notre volonté de dépasser la situation actuelle de façon apaisée et constructive, en confiance et en commun, sans chercher à imposer notre point de vue. Marshall Rosenberg résumait cela dans cette citation très profonde. Préférez-vous être heureux ou avoir raison? Parce que vous ne pourrez pas avoir les deux. Le conte de la semaine s'intitule « Le conte de la soupe et les problèmes de communication ». Il était une fois une femme assise seule à la table d'un restaurant. Après avoir lu la carte, elle commanda une appétissante soupe qui avait attiré son attention. Le serveur, très aimable, la servit, puis reprit son travail. Quand il repassa près d'elle, la femme lui fit un signe. Il vint rapidement à elle. « Que puis-je pour vous, madame ? J'aimerais que vous goûtiez la soupe. » Le serveur, surpris, lui demanda aimablement si la soupe était mauvaise ou si elle ne lui plaisait pas. « Ce n'est pas ça. J'aimerais que vous goûtiez la soupe. » Après quelques secondes de réflexion, le serveur se dit que la soupe était peut-être froide. Il le fit donc savoir à la dame, à moitié en lui posant la question et à moitié en s'excusant. « Peut-être la soupe est-elle froide ? Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ce problème tout de suite. »«
La soupe n'est pas froide. Pourriez-vous la goûter, s'il vous plaît ?»
Le serveur, déconcerté, laissa donc de côté son amabilité pour se consacrer à résoudre le problème. Il n'était pas d'usage de goûter les plats des clients, mais la dame insistait tellement qu'il ne voyait plus d'autre option que de céder à sa demande. Quel était le problème avec cette soupe ? Il usa de sa dernière cartouche.
« Madame, dites-moi ce qu'il se passe. Si la soupe n'est ni mauvaise, ni froide, dites-moi ce qu'il se passe. S'il le faut, je vous la change. »
S'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je me dois d'insister. Si vous voulez savoir ce qu'il se passe avec cette soupe, alors goûtez-la. »
Finalement, face à une demande si catégorique de la dame, le serveur finit par accepter. Il se rapprocha donc de la dame et, s'apprêtant à prendre la cuillère pour goûter, il se rendit compte qu'il n'y avait pas de cuillère sur la table. Avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir, la dame fit tomber le verdict.
« Vous voyez, il n'y a pas de cuillère. Voilà le problème qu'il y a avec la soupe. Je ne peux pas la manger. »
L'action de la semaine est en relation avec cette histoire. Si vous avez écouté cette histoire, extraite d'un livre de contes de Georges Bucaille, vous pourrez vous rendre compte du fait que nombreux sont ceux qui pensent qu'ils peuvent se faire comprendre des autres avec de simples sous-entendus, sans aller au fait, mais en tournant autour du pot, persuadés que leurs interlocuteurs devineront ce qu'ils veulent dire ou faire, ou bien ce qu'ils pensent. De ce fait, la communication se fait difficile, alors qu'elle pourrait être bien plus simple. Les autres ne sont pas dans notre tête, et même si certaines choses nous paraissent évidentes, pour eux, elles ne le sont pas forcément, car chacun a sa manière d'agir et de penser. Et vous ? De quelle façon communiquez-vous ? Faites-vous de simples sous-entendus ou au contraire, employez-vous un langage clair et direct ? Connaissez-vous des gens qui communiquent comme la femme de ce conte ? Cette semaine, donnez-vous comme objectif d'apaiser une relation en tension, que ce soit avec un enfant, dans votre couple, avec un ami ou encore au travail. Provoquez un échange et efforcez-vous de l'apaiser. Pour la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec The Flaming Lips et leur titre The Yeah 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 Song. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux. You do.
through that.